Bonjour, nous allons reprendre notre programmation sur la scène du marché pour l'après-midi. Je vais vous donner un petit peu le détail de ce qui va se passer pour ce dernier après-midi, hein, n'oubliez pas. Ce soir, il sera trop tard. À 14h, nous avons une table ronde « Traduire la poésie contemporaine de langue française ». J'y reviendrai dans deux petites minutes. À 15h30, nous recevrons les poètes québécois que nous avons invités pour le marché de la poésie pour une dernière rencontre. À 17h, nous aurons une table ronde sur le devenir de l'édition de poésie. À 18h15, nous recevrons les Pays-Bas en poésie, puisque les Pays-Bas sont l'invité de l'année prochaine pour le marché de la poésie. Et puis à 20h, le marché de la poésie fermera ses portes. Nous allons donc commencer cet après-midi par une rencontre dans le cadre des États généraux de la poésie, deuxième année. Cette année, le thème de ces États généraux, c'est le devenir du poème. Et cette table ronde est consacrée à la traduction de poésie contemporaine de langue française. On a souvent l'habitude de faire des tables rondes et de recevoir des traducteurs de poètes étrangers en France. Nous, on a décidé de faire l'inverse et d'essayer d'exporter la poésie française pour combler le déficit du commerce extérieur. Donc, nous aurons avec nous Kim Andringa pour les Pays-Bas, Elisabeth Edel pour l'Allemagne, Khaled Nadjar pour la Tunisie, Nina Parish pour la Grande-Bretagne et Marco Siscar pour le Brésil. Et la températrice est Mateja Petit, Bijak Petit, qui est slovène, qui fait aussi de la traduction en slovène et qui sera la températrice de cette table ronde et à laquelle je cède la parole. Merci Mateja.
Merci à toi Vincent. Bonjour à tous, bonjour à mes invités aussi. Je pense qu'une belle rencontre s'annonce parce que qui plus de passionnés que les traducteurs de poésie. Donc je suis vraiment très très honorée et très heureuse de recevoir autour de moi Elisabeth Edel de l'Allemagne, Kim Andringa, c'est ça, de Pays-Bas, Marcos Siscar de Brésil, qui n'est pas venu exprès pour notre réunion, j'ai bien vérifié, et puis Nina Parish de Grande-Bretagne, et à côté de moi, Khaled Nadjar, avec qui j'ai pu échanger il y a quelques jours et qui vient de Tunisie. Alors pour commencer, et le temps que tout le monde s'installe, je vais présenter rapidement nos invités, brièvement, parce que ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils pourront nous dire ensuite. Donc je commence avec vous, Elisabeth. Vous avez fait des études de littérature allemande et littérature française à l'université de Graz. Et on a trouvé tout à l'heure que c'est juste à côté de la frontière slovène. Les voisines, quelle belle coïncidence en Autriche. Ensuite, vous avez enseigné à la section de l'allemand de l'université de Poitiers et puis à l'école supérieure de commerce à Poitiers. Maintenant, vous y vivez à Munich et vous vous consacrez à la traduction littéraire en tandem, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, et on sera très heureux d'entendre ce que vous pouvez nous dire autour de ça. Je continue avec vous, Kim, chargée de cours de traduction à l'Université de Liège. C'est cela, docteur en littérature comparée, agrégé de néerlandais. Et votre force, c'est que vous traduisez du français en néerlandais, de néerlandais en français, mais aussi de frison en français. J'ai dû chercher un tout petit peu ce que c'est, donc je serai très heureuse aussi quand vous allez pouvoir nous expliquer ça. C'est bien de faire des petits cahiers comme ça. Marcos Siscar, Brésil, poète et professeur à l'université, traducteur, ayant publié en portugais des livres de Corbier, Fénon, Roubaud, De Guy. C'est ça, et plein d'autres, vous allez pouvoir nous en parler aussi. Vous avez fait paraître en France des études de Jacques Derrida sur la poésie française et la brésilienne. Et puis vos poèmes sont aussi, vous traduisez, mais vos poèmes aussi sont traduits dans d'autres langues, français et publiés en portugais. J'oublie rien. On dira tout à l'heure. Nina Parish. J'aime beaucoup votre nom, je ne sais pas, ça sonne tellement joli. Nina Parish. Depuis que j'ai su que je vais animer cette table, je n'ai pas arrêté de le répéter. Pourtant, des fois, je ne retiens pas tout à fait les noms. Mais là, encore une fois, Nina Parish. Je crois que je vais écrire un poème un jour avec ce nom. Donc, maître de conférence à l'université de Bath, en Royaume-Uni. Elle travaille sur les relations entre le texte et l'image, la poésie moderne et contemporaine de la muséologie. Elle est auteure de plusieurs articles d'une monographie sur Henri Michaux. Avec Emma Wagstaff, vous animez le réseau de recherche international et vous travaillez sur la pratique poétique contemporaine, une approche interdisciplinaire. Très bien. Et vous avez aussi édité plusieurs anthologies bilingues de la poésie contemporaine. Kalad Kadjar, nous avons pu échanger longuement l'autre fois, on a échangé les mails, et j'ai pu découvrir que vous êtes poète, journaliste, écrivain, éditeur, vous dirigez les collections, et vous êtes aussi un traducteur avec des expériences extraordinaires, parce que toutes les publications que vous avez faites, quelle richesse, quel plaisir de vous avoir avec nous. Donc votre poésie aussi est traduite en persan, farsi aussi, turc, français, anglais, allemand, espagnol, danois, italien, dis donc, bravo. Journaliste notamment pour l'UNESCO, écrivain de poèmes, essais, récits de voyage, et vous êtes fondateur des éditions Taoubad, c'est cela, et de plusieurs revues avec Michel Butor, Léonard Gaspard. Donc voilà nos invités, et c'est ici que j'ai envie de découvrir plus sur vous, en vous donnant la parole, peut-être comme ça, en cercle, chacun votre tour, pour nous dire surtout quel est votre travail accompli jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous a le plus animé, vous a fait plaisir, qu'est-ce que vous avez envie de partager avec nos auditeurs.
Je traduis de la poésie, mais aussi beaucoup de prose. Et j'édite aussi des œuvres classiques françaises, c'est-à-dire j'ai fait par exemple des éditions de Flaubert et de Stendhal, puisqu'on parlait tout à l'heure, on a abordé un petit peu la question de la difficulté. Donc je vous disais, je crois qu'il y a aussi des proses tout aussi difficiles à traduire que la poésie. Mais que, en fait, de faire les deux, ça, l'un a une influence sur l'autre. Et traduire de la poésie m'a aussi rendu peut-être plus attentive encore en traduisant de la prose, donc au rythme, à la mélodie, et de faire beaucoup plus attention aussi quand on traduit de la prose, et bon, selon les auteurs, bien sûr, mais je crois que traduire de la poésie, c'est pour moi aussi un bon entraînement pour traduire des proses très difficiles. D'autre part, si je regarde les auteurs ou les poètes qui, pour moi, sont les plus importants ou que j'ai traduit le plus, ce sont Philippe Jacoté et Yves Bonnefoy. Et ce sont des auteurs où, des fois, il est difficile à dire est-ce que c'est encore de la poésie, est-ce que c'est de la prose, est-ce que c'est de la prose poétique ou est-ce que c'est de la poésie qui se laisse aller vers la prose. Donc, c'est aussi souvent un genre pas vraiment bien défini. Je crois que si on regarde l'évolution, par exemple, de Philippe Jacoté, qui, en vieillissant, s'est de plus en plus rapproché vers une poésie prosaïque ou un genre indéfini, ou bien il a composé beaucoup de livres où les poèmes changent avec des petits textes en prose, ou c'est des textes en prose où on dit c'est de la prose parce que on les voit comme tels sur la page, mais il suffirait de les mettre autrement, de les imprimer autrement et on aurait un poème. Donc c'est des fois un genre pas bien défini. Et autre chose que je vous avais dit tout à l'heure, donc je passe depuis une vingtaine d'années ou même plus, en fait, l'essentiel de mon temps à traduire des textes très différents français en allemand. Je travaille beaucoup toute seule, mais je travaille aussi beaucoup en tandem avec mon mari. Et on a commencé à traduire ensemble, c'est-à-dire on a appris à traduire ensemble en faisant de la traduction et en traduisant aussi des choses qu'on aimait beaucoup.
Donc il est allemand aussi ?
Oui. Et on a... je crois que c'était au milieu des années 90, On a traduit des fois aussi seulement des poèmes parce qu'on les aimait. Ou pour des rencontres où on avait dit, ben, tiens, ça serait bien de lire quelques poèmes en allemand. Et puis on a choisi des choses qu'on aimait beaucoup. Et donc ça a commencé un petit peu comme ça. Et là encore, donc, pour le plaisir, il y a certains auteurs qu'on traduit ensemble parce que comme ça, le plaisir, il est plus grand.
Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai que cette histoire de tandem nous emmènera plus tard dans cette question de choix, de comment on traduit la poésie et le choix des auteurs, comment on se rencontre. Kim, je vous laisse la parole pour nous parler de votre expérience de la traduction de, donc, dans les deux côtés. Et puis surtout, on attend l'intervention sur le frison.
Bon, alors commençons par le frison, comme ça, ce sera fait. Alors, la Frise, c'est la province du nord des Pays-Bas, qui a sa propre langue, qui est plus ou moins celtique, enfin, je crois. J'y ai vécu pendant 10 ans, ce qui fait que je maîtrise du moins passivement la langue. Et quand L'Oreille du Loup, qui est un éditeur français, donc, a voulu traduire un poète frison, pardon, il y a quelques années, j'avais pas beaucoup de concurrence, donc c'est tombé sur moi. Voilà. Pour l'instant, c'est le seul. Donc, à part ça, oui, donc mon parcours personnel fait que j'ai appris les deux langues plus ou moins en même temps, ce qui fait que je peux traduire dans les deux sens. Dans la pratique, j'ai traduit plutôt vers le français, en fait, parce que bon, je suis installée à Paris, c'est plus logique, il y a le monde qui m'entoure, enfin, qui est francophone. Donc, j'usurpe un petit peu ma place ici sur le podium aujourd'hui. Mais bon, j'ai quand même traduit quelques poètes vers le néerlandais. J'aime pas tellement parler de traductions plus importantes que d'autres, parce que de toute façon, pour moi, avant tout, c'est un plaisir très égoïste, ce qui rejoint un petit peu ce que tu disais à l'instant, parce que pour toi, c'est un plaisir partagé avec ton mari, pour moi, c'est un plaisir solitaire, si je puis dire. Et je traduis, en fait, quelque part, tout d'abord pour moi-même, c'est parce que ça me donne un tel plaisir de lecture que, enfin, voilà, que c'est la rémunération déjà de la traduction, le fait de le faire pour soi, de se plonger dans un texte et de s'approprier ce texte quelque part. Enfin, c'est une sorte de vol en quelque sorte. Donc voilà, bah oui, c'est le texte du lecteur, mais quand je l'ai traduit, il est un petit peu à moi aussi. Donc c'est, voilà, quelque part, c'est une sorte de vol, oui, je dirais. Et après, il y a le plaisir de partager aussi, de dire voilà, je traduis un texte et je l'ouvre, je le rends accessible à un public qui ne pouvait pas accéder à l'original. Et là, ça devient effectivement plus altruiste, si je puis dire. Et c'est la beauté de la traduction, je crois. Donc, par exemple, je traduis beaucoup de poètes très contemporains qui ne sont pas connus donc, aux Pays-Bas. Et c'est par ma traduction que je fais découvrir en quelque sorte aux Pays-Bas le fait qu'il existe des traducteurs plus jeunes que Bonnefoy ou enfin, plus récents que Rimbaud. Et, enfin, voilà, parce que parfois, on s'arrête dans les années 60 et enfin, on n'a aucune connaissance de ce qui se fait de nos jours. Et je crois que c'est aussi le rôle du traducteur de rendre accessible cette contemporanéité.
Et quelle est la situation éditoriale et l'accueil de ces auteurs français ?
Il y a beaucoup de choses qui se font au niveau des festivals, c'est comme le festival de Rotterdam qui est un grand festival international, dans les revues aussi. Après, on ne publie pas tellement de recueils de poètes français contemporains, ça c'est beaucoup plus rare. Là je crois qu'on reste quand même très axé encore sur la poésie classique parce que bon, le français est une langue quand même encore très répandue aux Pays-Bas, très, très connue, une langue qui a une certaine tradition. Et donc, on connaît bien les classiques, on connaît moins ce qui se fait aujourd'hui. Donc, on est très ouvert à une réédition de Rimbaud ou de Verlaine. On sera moins ouvert à une édition d'un poète très contemporain.
Donc, c'est publié dans des revues plutôt,
essentiellement, oui.
Des festivals.
Oui.
Oui, ça va me marquer votre idée ou ton idée de dire que c'est un vol parce que je trouve que c'est joli. Je n'y ai jamais pensé, mais. C'est vrai, c'est un joli vol. Hein.
Il ne faut pas se sentir coupable, je crois.
Non. Donc, merci beaucoup. Marcos, je vous cède la parole pour nous parler de vos projets, de vos traductions aussi, de votre poésie aussi, dans plusieurs langues.
Oui. Bon, je commence aussi par une espèce de témoignage donc, de mon rapport avec la traduction, qui en fait n'est pas tout à fait, pas du tout un rapport professionnel. Et donc, la traduction pour moi, c'était au début, quand je suis arrivé à la langue française et quand je suis arrivé connaître et apprécier la traduction. C'était surtout pour moi une façon de connaître, de lire des poètes étrangers que je ne connaissais pas. Et j'écris de la poésie, donc ça avait un rapport très proche aussi avec mon intérêt pour l'écriture poétique. Et je crois que surtout ça m'a servi comme une façon, donc, je disais, de lire, de connaître, de m'expliquer un poète, de m'expliquer mon amour pour un poète. Je dis comme ça parce qu'il y a un traducteur connu au Brésil qui dit qu'il traduit. Il veut traduire parce que c'est sa façon d'aimer. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de cette sensation, de cet intérêt quand on traduit. On se sent attiré. Mais en même temps, c'est cette aventure d'aller vers l'autre, c'est aussi une façon de se constituer, en quelque sorte. Et ça, pour moi, ça a été toujours, par rapport à la traduction, mon biais principal de rapport à la traduction, en fait. Et donc, mon premier travail, je crois que vous avez rappelé, c'était une traduction de Tristan Corbière, qui est un poète du fin du 19e siècle français. C'est un poète très difficile, du moins assez difficile pour quelqu'un qui commençait à apprendre la langue. Mais pour moi, c'était très, très clair et évident que traduire, c'était ma façon de connaître le français, de connaître la France. C'est au moment où je suis venu en France, connaître la Bretagne, connaître les paysages des poèmes. Donc c'était d'une certaine façon aussi s'aventurer dans la culture, dans la langue étrangère. Et je crois que ce schéma-là, d'aller vers l'étranger pour se constituer, ça m'a toujours constitué en quelque sorte. Et aussi dans le sens où, plus récemment, je suis devenu prof, donc il me fallait aussi pas seulement me constituer, mais aussi partager ce que j'avais d'une certaine façon construit, compris ou construit. Et donc, connaître, ça veut dire aussi savoir partager ce qu'on traduit. Alors, ça, c'est, pour moi, c'est fondamental dans la traduction de poésie contemporaine. Donc, mes collègues disaient que c'est plus simple de traduire, de présenter Rimbaud, de présenter Baudelaire, c'est-à-dire de traduire et de publier ces auteurs, mais ce n'est pas du tout évident quand on va traduire un poète contemporain d'une autre langue. Simplement parce que même dans notre langue, dans notre façon d'expérimenter la poésie contemporaine, c'est toujours un univers un peu opaque, difficile, un peu méconnu. Et donc ça vaut aussi évidemment pour une poésie étrangère. Et faire partager une poésie étrangère, c'est pas simplement la traduire, c'est aussi la présenter, l'expliquer pour un public. C'est-à-dire la présenter pour une communauté de lecteurs qui n'ont pas de rapport avec ces auteurs, pas simplement à cause de la langue, mais aussi parce qu'ils sont éloignés, ils sont méconnus. Donc pour moi, ça a été toujours aussi, dès que je me suis mis à traduire la poésie française contemporaine, cette préoccupation d'accompagner ça avec un discours sur les auteurs, sur la poésie contemporaine. Il y aura des choses à rappeler de ce côté-là. Mon rapport avec Michel Deguy, qui a été mon prof et qui m'a beaucoup, pas seulement appris, mais influencé dans le sens de voir la poésie comme quelque chose aussi qui relève de la discussion. De la discussion sur ce que se passe. Donc, d'avoir, disons, un discours qui est en même temps un discours qui présente un objet, mais aussi qui met en valeur ce qu'il a de polémique, faire ressortir les différences que la lecture d'un objet suscite chez ses lecteurs. Et c'est un peu aussi ce qui m'intéresse aujourd'hui dans mes recherches de poésie française, c'est justement les embats, les discussions, par exemple autour du lyrisme, du littéralisme, et des gens qui prennent la poésie d'une façon très, très militante et très oppositive, enfin, jouant aussi les oppositions. Mais en tout cas, ça aide, du moins chez nous, ça aide un peu à envisager la poésie française d'une façon plus... avec plus de sens.
Merci beaucoup, parce que votre témoignage, effectivement, donne beaucoup de sens et aussi montre l'humain, en fait, dans sa générosité, dans cette communion avec l'autre, dans ce partage, dans cette transmission. Et j'avais deux pensées pendant que je vous écoutais. Avec la Maison de la Poésie Jeunesse que je dirige, on travaille beaucoup avec les enfants. Et je me suis dit tout d'un coup, voilà, il faut mettre en place les ateliers de traduction. Parce que c'est là où ils vont vraiment se rencontrer avec la langue, avec l'auteur, avec c'est une belle façon de médier et la poésie et l'ouverture vers une autre langue. Parce qu'une autre langue, c'est pas juste les mots et les règles, c'est aussi le sens. Et souvent, on oublie ce sens-là, surtout avec les petits. Donc voilà, je me suis dit, ce que vous dites, je pourrais très facilement le transposer aux jeunes. Et il y a une autre pensée que j'avais quand vous avez parlé de la traduction contemporaine. Quand on traduit des poètes classiques, c'est vrai qu'on a déjà une langue dans sa langue dans laquelle on va traduire qui est établie. Donc on va aller piocher dans des règles. Quand on traduit le contemporain, les poètes contemporains vont inventer une nouvelle langue. Et cette langue n'existe pas forcément dans notre langue qu'on maîtrise. Donc il faut traduire et inventer. Et cette inventivité, je pense qu'il faut qu'elle colle avec la culture, avec la langue, avec l'histoire, avec les références. Et c'est là où il y a une vraie responsabilité sur les épaules des auteurs, me semble. Nina Paris.
Bon. Je pense que je n'ai pas autant traduit que les autres sur cette scène. C'est une activité récente pour moi. Je suis universitaire et comme j'enseigne la langue française à l'université au Royaume-Uni, on est censé enseigner la traduction. Donc ça fait des années que j'enseigne la traduction. Et c'est depuis peu que je traduis aussi. C'est lié aux activités qu'on a eues avec Emma Wagstaff sur notre réseau de recherche internationale. On s'est interrogé sur les relations de la poésie entre d'autres arts. Donc les arts visuels, la musique, le théâtre, la politique, la philosophie et aussi la traduction. Donc de ce réseau, c'est de la part de Jérôme Gamme, qui est ici dans le public aujourd'hui, qu'on a eu la chance on nous a demandé d'éditer une anthologie avec NF Harmon Press à Londres. Et on s'est dit avec Emma, ben, on va devoir traduire un texte. Voilà le défi aussi. Donc Emma, elle a beaucoup travaillé sur Philippe Beck, donc c'était évident qu'elle allait traduire Philippe Beck. Et pour moi, il n'y avait pas d'écrivain contemporain où il y avait une évidence que je devais le traduire. Avec un collègue à Bath, on s'était mis à traduire un texte de Michel Gringaud à deux. Et j'ai trouvé une espèce de, je ne sais pas, de libération à traduire ce texte-là. C'était tellement différent de ce que j'enseigne à mes étudiants, de faire de la traduction, d'être prudent, de respecter le texte source. Évidemment, j'ai énormément de respect pour le texte source. Mais là, avec le texte de Gringaud, pour suivre les contraintes qu'elle a imposées dans ce texte, il fallait faire autre chose. Et donc, pour l'anthologie, moi, on avait besoin de quelqu'un pour traduire Anjam Chaton. Donc, j'ai relevé ce défi-là. Et voilà, là encore, ce geste créateur m'intéresse énormément. Et maintenant, je travaille avec mes étudiants sur ces traductions-là. Et c'est très intéressant de les voir dans la création comme ça aussi. Donc, voilà.
Merci, merci beaucoup. Et c'est vrai que, à mon avis, comme professeur de traduction, arriver à traduire, ça doit être un joli pas aussi vers la création. Voilà. Je vous laisse aussi témoigner de ce.
Merci. Alors, quel témoignage ? Moi, je pars de. J'ai traduit de la poésie française à l'arabe. J'ai traduit, vous voyez, quand on traduit dans une langue, hein, moi je ne crois pas dans la traduction, parce que chaque traduction c'est une lecture. Et chaque lecture c'est une recréation du texte. Hein. Deux, je pars aussi apprendre les autres langues. C'était classique dans la culture arabe, parce que au 8e, 7e siècle, ils ont traduit les Grecs, ils ont traduit les Persans, ils ont traduit. Et quand ils ont traduit les Grecs, ils ont traduit les philosophes, mais ils n'ont jamais traduit ni le théâtre, ni la poésie. On parle d'Homéros, mais parce que les Orientaux ont un rapport spécial avec la poésie. Par exemple, j'étais en Iran, jusqu'à maintenant, en Iran, en Turquie, les gens visite les tombeaux des poètes. Moi, Al-Khayyam, il est en même temps poète et en même temps un homme, un mystique. Ce n'est pas le Khayyam de Vizjal. Le Khayyam de Vizjal, c'est un autre Khayyam qui est très beau, qui est très moderne, qui n'a rien à voir avec le vrai Khayyam. Et ça, ça me rappelle Borges quand il a parlé de cette traduction. Parce qu'une vraie traduction, c'est une vraie recréation. Et la fidélité dans la traduction, l'infidélité, c'est la vraie fidélité. C'est l'infidélité. Parce que dans l'infidélité, il y a la création, il y a l'homme, il est libre de lire un texte et de l'approprier. Alors, pour moi, quand j'ai traduit Saint-Jean Perse, j'ai aimé beaucoup, parce que la langue arabe, c'est une langue très poétique, très lyrique. Et chaque chose qu'on traduit à l'arabe, il devient poésie. Ils sont lyriques, qui est dangereux, même en politique. Et ça, c'est très dangereux. Alors, puisque ce rapport à la poésie dans l'Antiquité, que je dis en Turquie, on visite Jalaleddin Rumi, en Iran, on visite même Al-Firdawsi. Al-Firdawsi, c'est Homéros de l'épopée iranienne. C'est Homéros, il n'est pas religieux, mais les gens le visitent. Moi, j'ai visité Al-Firdawsi avec une écriture sur son tombeau. Alors, je retourne à la traduction. Pour cette raison, les Arabes anciens. Mais aujourd'hui, on a besoin de traduction. Alors, j'ai traduit Saint-Jean Perse, que j'aime beaucoup. Les poètes qui marchent bien en arabe, c'était les poètes lyriques, Saint-Jean Perse, Rimbaud. J'ai traduit Guy Goffet, moderne. Et pourquoi ? Mais comment je traduis ? Voilà. Je traduis, comme on dit, je traduis d'une. Quand je lis un texte qui me touche à l'intérieur, je le traduis. Et comme on dit, on fait l'amour et la prière dans la langue maternelle. Et moi, je dis aussi, on sent la poésie dans la langue maternelle. Alors, on traduit, et je traduis ce que je sens. Parfois, il y a des fautes, de belles fautes, certainement. Une faute, c'est ça, c'est féminin. De belles fautes, c'est bien. Alors, mais l'essentiel, le lecteur, il se trouve devant un texte qui lui ajoute quelque chose. C'est vrai, on dit en poésie, traduire la poésie, c'est comme si quelqu'un, il embrasse une femme derrière un vitre. Il va tout. Le visage, tout, mais il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas la vie. Alors, et ça, oui, c'est comme derrière le vitre. Mais quand même, l'humanité n'a pas une autre solution pour communiquer. Et comme on dit aussi, on a besoin de connaître une autre langue, parce que comme il le dit Goethe, celui qui connaît que sa langue ne connaît pas sa langue. Il doit connaître d'autres langues pour... Voilà, alors c'est comme ça que j'ai traduit Laurent Gaspard, Saint-Jean Perse, j'ai traduit Michel Pitor, j'ai traduit Guy Goffet, que j'aime beaucoup. Il y a un autre poète que j'ai traduit par hasard, un poète français, qui s'appelle Le Guic, Gérard Le Guic et les Bretons. Et voilà, j'ai publié une collection. Voilà, c'est l'expérience, pour moi, c'est une expérience de lecture, recréation de texte, faire ta traduction et faire un texte qui est dans une autre culture et une autre langue. Voilà, parce que la langue, on est la langue est limitée par la culture. On ne peut pas dépasser, faire exactement. Ça donne un texte stérile. Voilà, merci.
Merci pour votre témoignage passionnant, effectivement. Mais ça ouvre quand même la question, parce que finalement, chaque traduction est liée à l'auteur qui va traduire. D'ailleurs, j'ai fait lapsus, j'ai dit l'auteur. Avant de préparer cette table ronde, je discutais, est-ce que le traducteur est auteur? Est-ce qu'il est poète? Ou est-ce qu'il est passeur? Est-ce qu'il trahit vraiment? Est-ce qu'il trahit joyeusement? Est-ce qu'il ne veut pas trahir? Je voudrais bien entendre votre opinion par rapport à ça. Comment vous traduisez? Est-ce que vous êtes auteur? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous trahissez? Est-ce que... Ou non, pas du tout. Vous êtes plutôt fidèle.
Moi, je veux bien répondre. Non, je me considère principalement comme traductrice. Et je trouve que c'est un métier tellement beau que je n'ai pas besoin de chercher d'autres noms. Si je suis auteur, passeuse, n'importe. Non, mon métier, c'est traduire, et mon métier, c'est être traductrice. Mais je crois que tout à l'heure, je crois que les termes infidélité et fidélité, ça ne nous mène pas très loin, parce que c'est des espèces de schémas qu'on aime bien coller sur le travail du traducteur. Et je crois que des fois, ça peut être le cas que l'infidélité est la vraie fidélité, mais des fois, l'infidélité, elle est tout simplement et bêtement de l'infidélité aussi. Donc, je me méfie toujours de ce genre d'étiquette, un petit peu. Hein. Mais je crois que ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait de vouloir partager, bien sûr, parce qu'on traduit des poètes qu'on aime particulièrement. Donc c'est des auteurs, des écrivains, des poètes qu'on apprécie soi-même particulièrement. Donc je crois que même avant de penser de vouloir les partager, le simple fait de vouloir se les approprier, c'est-à-dire je lis un poème que j'aime beaucoup et tout de suite me vient la tentation où je commence automatiquement à traduire. C'est quelque chose, c'est une expérience très belle que je fais de temps en temps, assez régulièrement, avec un poète suisse francophone qui s'appelle Frédéric Vandeleyre et qui m'envoie régulièrement des poèmes qu'il vient d'écrire. Donc des fois dans la journée aussi, m'arrive 5, 6, 7, 8 versions d'un poème et des fois je lui dis « arrête, ne change plus rien parce que j'aimais mieux la version 3 ou 4, mais là... dans les corrections, tu vas trop loin. Non, va en arrière. » Mais tout de suite, je commence et j'ai cette envie de traduire. Donc, je lis, mais en lisant, je commence à traduire. Et donc, c'est ça. Et je crois que le besoin de partager, peut-être ça vient après, parce qu'on aime et on se dit, bah, ça serait quand même bien que d'autres lisent les mêmes textes, les mêmes poèmes. Et donc, on se met, je crois que c'est valable pour tout le monde, on se met à chercher des moyens de les publier, soit dans des revues, ou si on a de la chance, de faire des recueils. Et c'est pour ça que je reviens aussi un tout petit peu, pour moi, à Philippe Jacoté. Il est très important pour nous, parce que ça fait longtemps qu'on le traduit, donc on a fait vraiment déjà beaucoup de volumes, on le connaît bien. Ça fait une vingtaine d'années qu'on le connaît, qu'on se voit régulièrement. Donc, il y a une espèce aussi d'amitié qui est née. Pareil avec Bonnefoy. Donc, tous les deux sont traducteurs, étaient traducteurs. Donc, ont aussi l'approche de l'autre côté, parce que dans leur vie, ils ont beaucoup traduit aussi. Et on a, par exemple, fait, avec Philippe Jacoté, une anthologie de la poésie suisse-romande. Et donc ça, c'est des auteurs donc, contemporains. Et de là, donc, il nous a fait connaître aussi beaucoup d'auteurs qu'avant on ne connaissait pas, donc des poètes contemporains qu'on ne connaissait presque pas ou pas du tout. Et de là est né aussi après donc, un travail de traduction, de se consacrer plus, donc même en dehors de cette anthologie, à l'un ou l'autre de ces auteurs dans cette anthologie et à trouver donc des maisons d'édition ou même des revues qui les publient. Donc là, après, c'est vrai, ça devient aussi un métier de passeur, mais par passion.
Oui, et de ces rencontres. Je vais me tourner vers Nina. Vous souhaitez réagir ?
J'ai voulu vous répondre. C'est pas une étiquette, l'infidélité. On est toujours dans l'infidélité parce que les langues diffèrent et chaque langue limitée par la culture, il y a ce qu'on appelle entre les langues les cases vides. Par exemple, comment vous traduisez sieste, la sieste qu'on fait dans les pays chauds en Espagne, dans les pays du Nord, par exemple en suédois, la siesta. Ça n'existe pas. Il y a des cases vides. Et même quand vous traduisez exact, vous êtes toujours dans l'infidélité parce que vous faites un choix parmi d'autres choix. Ça n'existe pas un mot adéquat dans une langue à une autre. Les cultures ne communiquent pas beaucoup, malgré à l'apparence, ils communiquent. Et pour cette raison, on ne peut pas trouver une traduction exacte. Voilà ce que je veux dire. Il y a toujours plus ou moins.
Merci. Mais je pense que l'exemple de Nina peut vraiment témoigner des deux côtés de ce que vous avez raconté. C'est l'expérience que vous avez vécue à quatre mains, oui, avec un poète et des traducteurs et qui ne parlaient pas la même langue. Oui. Et qu'est-ce qu'il en a été sorti ?
Donc, au mois de juin, on a été invités, Emma et moi, à une activité, une soirée organisée par NFM Press à Londres. Et on était quatre ou cinq poètes traducteurs. Et ils nous ont donné un poème à traduire dans une langue que personne ne connaissait. C'était le catalan pour nous. Donc, et on n'était pas censé aller chercher sur Internet pour trouver la traduction. On était censé le faire nous-mêmes. Et ils nous ont donné des éléments de vocabulaire, un lexique quand même, avec la plupart des mots. Et c'était très intéressant à écouter les traductions différentes. Emma et moi, on a toutes les deux produit nos propres traductions, mais on a suivi la même approche. Donc, assez prudent, assez fidèle, si on peut le dire. Mais une chose qui est devenue très importante très rapidement pour moi, c'était de garder l'étrangeté du texte original. Et c'était un texte vraiment étrange pour moi parce que je ne parle pas le catalan. Donc justement, d'essayer d'entendre les mots, les sons, les rythmes, d'essayer de reproduire ça, écrire dans une langue étrangère, en fait. Mais parmi nous, il y avait un poète qui n'est pas du tout traducteur, qui ne parle pas d'autres langues, et sa version était complètement différente, très, très infidèle, si vous voulez. Donc ça s'appelle en anglais « versioning ». Donc vraiment, il a créé son propre texte, et parmi le public, je pense que c'était le texte qui était le plus agréable à écouter, le plus réussi, je pense, même si c'était le plus loin du texte original.
Oui, ça m'a touchée tout à l'heure, parce que quand il y a la vie, à mon avis, en fait, il ne faut pas... Parce que je pense que ce n'est pas une question de fidélité et non-fidélité, c'est la vérité et ce passage de la vie d'un poème vers l'autre langue. Et Marcos, votre rapport à la fidélité, ou plutôt de la trahison de poèmes, et que je appuierai avec une deuxième partie de la question, c'est comment la poésie française est accueillie en Brésil ?
Alors, moi aussi, je ne dirais pas que je ne crois pas à la traduction, je dirais le contraire. Je ne crois qu'à la traduction, parce que chaque fois qu'on lit un poème, même dans sa langue, on est déjà dans la traduction, en quelque sorte. Donc il faut bien, faire avec. Donc la traduction, c'est la première chose qu'il y a. Il n'y a pas quelque chose au-delà de la traduction. C'est toujours de la traduction. Et donc il y a plusieurs façons de concevoir la traduction, mais aussi d'expérimenter expérimenter en fait des traductions. Alors on pourrait citer plusieurs manières de se rapporter à un poème. Moi-même, j'ai eu une expérience un peu folle comme celle-là, parce que j'étais dans un colloque à Berlin avec un autre poète, donc un poète de langue allemande que je ne maîtrise pas, donc une langue que je ne parle pas. Et lui non plus, il ne parlait pas le portugais. On avait un traducteur entre nous. Et on a traduit des poèmes l'un de l'autre. Donc c'est une expérience, évidemment, ce n'est pas philologiquement très responsable, mais c'est quand même une expérience assez agréable et intéressante du point de vue de la poésie. Ça suscite des choses. Et je crois qu'il y a une gamme très, très ample de rapport à la traduction. Et je crois qu'on peut prendre son pied en traduisant. Je dis ça parce qu'à cause de l'image d'embrasser une femme derrière la vitre. Et l'autre jour, je voyais un film au cinéma, Patterson, un film où il y a aussi une figure, une image de ce genre. Quelqu'un qui parle de la traduction de la poésie orientale dit que la traduire, c'est comme prendre une douche avec la couverture de pluie. C'est un peu la même chose. Oui, et donc c'est un rapport avec ça. Mais je crois qu'il y a beaucoup de façons, beaucoup de manières de traduire. J'ai déjà traduit avec une sensation de faire mon boulot simplement. Et puis d'autres fois aussi que je me sentais vraiment... on utilise beaucoup le mot créatif, création. Mais je crois qu'il y a un peu toujours il y a de la création. Dans la mesure où il y a de la lecture, il faut avoir de la création aussi. Et donc, quand j'ai traduit, par exemple, le texte de Jacques Roubaud, des textes qu'il a écrits pour enfants, c'était un plaisir énorme. Et il y a deux livres, moi, Les animaux de tout le monde, Les animaux de personne. J'ai traduit une bonne partie de Les animaux de tout le monde. Et ce sont des textes très, très ludiques, très, très jeux, joyeux aussi, mais enfin, qui jouent beaucoup avec la langue. Et ça a été une expérience vraiment poétique, très, très, très excitante, impressionnante pour moi comme traduction. Je manque à la dernière question. Oui,
mais je vais rebondir sur le jeu de mots, parce qu'en fait, c'est là la difficulté des fois. Quand il y a le jeu de mots dans la langue française ou la langue d'origine, qu'est-ce qu'on fait quand on traduit ? Est-ce qu'on va prendre le sens littéral ou est-ce qu'on va chercher la musicalité, le rythme, le sens qui s'adapte à la nouvelle culture? Comment vous vous en sortez?
Je pense qu'on est toujours dans un contexte comme traducteur et on a un public qu'on envisage. Donc il faut savoir si le public, par exemple, si traduire ce poème, c'est, disons, présenter une œuvre ou si c'est, ou bien si, éventuellement... C'est amuser les lecteurs, donc ça fait beaucoup de différence. Donc quand j'ai traduit Robot, quand j'ai traduit des poèmes pour enfants, pour moi, il fallait surtout amuser mon lecteur en portugais, c'est-à-dire qu'il fallait retrouver des jeux de mots et des jeux culturels qui ne sont pas toujours les mêmes, évidemment. Mais dans ce cas-là, ça, c'était pas que pour mon plaisir, mais c'était quand même une décision qui prenait en compte... le public lecteur de cet ouvrage-là. Il y a d'autres situations, et je crois que c'est la plupart, en fait, où on est des traducteurs qui doivent être très responsables du point de vue de l'histoire littéraire, de la théorie de la littérature, du sens de l'œuvre d'un écrivain qui a écrit d'autres choses, hein, qui normalement écrit beaucoup de choses, et on pince, on enlève un exemplaire, il faut connaître quand même beaucoup de choses avant de se mettre à traduire. Donc je crois que c'est la situation la plus courante. La responsabilité, ça j'aime beaucoup, j'aime bien maintenir dans l'horizon cette exigence de traduire, c'est aussi de se renseigner et puis d'essayer d'être fidèle, entre des guillemets, dans le sens où on se met en rapport avec une lecture, une interprétation qu'on a soucieusement construite. Donc, il y a différentes manières, je crois, de se prendre à ces problèmes-là.
Oui, la responsabilité qui pèse sur les épaules des traducteurs. Et quand on traduit dans les deux sens, est-ce qu'on rencontre ces mêmes problèmes ? Est-ce que c'est plus facile parce qu'on est, on va dire, armé positivement, mais des deux côtés ? Comment on réfléchit dans ce cas-là ?
Je ne pense pas que ça joue vraiment un rôle. Parce que quand je traduis un poème, je traduis ce poème-là et rien d'autre. Donc je suis dans ce poème, dans cette direction de traduction-là. Et enfin, le reste ne joue pas vraiment n'intervient pas, finalement, je crois. Enfin, évidemment, le fait de maîtriser deux langues, ça aide. Mais enfin, ça vaut pour tous les traducteurs, pas plus pour moi que pour d'autres. Et non, franchement, ouais, je ne crois pas que ça, non.
Et quand vous choisissez les auteurs, est-ce que c'est les auteurs que vous avez lus qui vous ont donné envie pour que vous les traduisiez ou c'est un éditeur qui vous propose traduction?
Oui, évidemment, je voulais dire ça pour rebondir sur ce que disait Elisabeth, parce qu'effectivement, il y a ces textes où quand on les lit, la traduction, elle jaillit quelque part d'elle-même, elle commence à se former dans votre tête sans même qu'on fasse le moindre effort. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas se leurrer. On est aussi des bêtes de somme. On travaille aussi sur commande. Et très souvent, c'est le cas pour moi, en tout cas. Donc, c'est un éditeur ou quelqu'un qui nous approche et qui nous demande de traduire tel ou tel poème de tel ou tel auteur, oui. Et bon, là, évidemment, si c'est quelque chose qui ne me parle pas du tout, je vais refuser. Mais ce ne sont pas forcément toujours des coups de cœur non plus. Donc, mais de toute manière, on trouve, je pense, dans chaque texte ou presque quelque chose qui nous parle, quelque chose qui nous donne envie de le traduire, qui vaut la peine. Donc on arrive toujours à, bon, je ne vais pas dire à se motiver, ce serait un peu méchant, mais on arrive toujours à trouver ce point de contact quelque part qui fait que ça se met en marche et qu'on trouve les mots et qu'on a envie de trouver les mots.
Oui, et cette générosité qui s'ouvre face à un texte. Oui. Parce que si on est en face d'un texte et que ça ne nous parle pas, je pense que c'est ça, là la trahison. Si on parlait d'infidélité,
oui,
elle serait là pour moi.
Oui. Ça peut être un défi aussi.
Un défi ?
Oui, c'est vrai aussi.
Oui, tout à fait.
Oui.
Si je ne sens pas le texte, je ne peux pas le traduire. Ce sera comme quelqu'un, comme on dit, au lieu de faire écrire un poème, il fabrique un poème. Alors, parce que on part de quelque chose. Et s'il n'y a pas cette chose, on va partir de quoi ? C'est juste une petite remarque. C'est pas.
Non, c'est très bien. Peut-être que est-ce que vous traduisez de d'autres langues ? Parce que là, on a parlé de la poésie française traduite dans vos langues, non ?
Alors, par exemple, moi, je le traduis uniquement.
Je ne sais pas si on entend.
Non ?
Peut-être le micro à côté, si.
Je traduis uniquement du français, parce que c'est la seule langue où je me sens tellement à l'aise que je n'ai jamais le soupçon que quelque chose puisse m'échapper. Tandis qu'avec d'autres langues, je n'ai pas cette familiarité où je ne me sens pas aussi à l'aise. Donc, c'est un choix de dire non, c'est le français, voilà. Mais je crois, ce qu'on avait dit tout à l'heure, des fois, on est aussi amené à traduire des poèmes ou des poètes que, à la première approche, ils ne nous ont peut-être pas parlé. Mais c'est parce qu'il y a une certaine résistance aussi qui représente un défi et puis qu'on a envie de s'approprier ce texte-là, même s'il oppose beaucoup de résistance. Donc ça peut, je crois, des fois aussi fonctionner. Hein. Mais en général, pour moi, c'est plutôt ça, hein, que je lis quelque chose et puis me vient spontanément la volonté de le traduire, mais sans savoir si jamais ce poème sera publié. Donc il peut très bien rester dans un fond de tiroir. Donc, des fois, c'est uniquement aussi pour, oui, pour me l'approprier moi-même. Et pour un poème traduit, c'est un poème que j'ai compris. C'est ça ?
D'accord.
Aussi. Et je crois, en parlant de fidélité et infidélité, je peux faire des versions très différentes aussi d'un poème, d'un seul oui. poème. Je peux faire trois traductions qui peut-être seront très différentes d'un jour à l'autre ou d'un mois à l'autre, d'une année à l'autre, parce que je le ressens différemment. C'est possible. Et parce qu'on parlait de Jacques Roubaud, là, évidemment, j'ai juste traduit des livres de prose de Roubaud. Mais là aussi, bon, c'est des jeux de mots, c'est des images qui comptent. Et je crois que c'est de chaque poème, d'un poème à l'autre, ce qui importe, ce qui compte, va changer, va varier. Des fois, c'est les jeux de mots. Des fois, ça va être uniquement le rythme, la mélodie. On ne peut pas, je crois, donner une définition comme ça qui va être valable pour toutes les traductions que nous faisons.
On cherchait un poète commun tout à l'heure. Je pense que du coup, Jacques Roubaud sort du lot, non ? Vous avez traduit Jacques Roubaud et vous aussi. Et on s'est posé la question, est-ce que vous avez rencontré les mêmes difficultés en traduisant un auteur ou pas ? Donc ça, peut-être que ça serait vraiment une recherche à faire.
Ça dépend, les difficultés dépendent beaucoup de la langue dans laquelle on traduit. Hein. Parce que j'ai fait une très belle expérience. Une fois, on avait une rencontre sur toute une semaine. C'était en Suisse, une réunion de traducteurs différents de Jacques Auté et de Nicolas Bouvier. Et on a travaillé ensemble pendant toute une semaine. Et donc, chacun traduisait dans sa langue. Et effectivement, les difficultés sont différentes selon la propre langue. Oui. Et selon le rapport qu'il y a du français à l'allemand, du français à l'anglais, du français au portugais ou à l'espagnol, etc. Hein. Donc, évidemment, là, c'est... Mais au niveau de la compréhension du poème, au niveau de ce qui importe à un traducteur ou à un autre, les préférences qu'on a, évidemment, ça peut donner un résultat très très beau, d'avoir l'impression au bout d'une semaine de travail commun, d'avoir aussi évolué dans ce qu'on fait soi-même.
Tout à fait. Et puisqu'on est dans l'évolution, la question que j'avais envie de vous poser aussi à tous, comme ça au retour du cercle, c'est quels sont vos prochains projets ? Qu'est-ce que vous travaillez actuellement ? Qu'est-ce qui vous anime ? Est-ce que vous avez trouvé des textes là au marché ? Quels sont vos projets ?
Les projets, moi je travaille sur plusieurs projets toujours, parce que je suis une personne qui s'ennuie. Parfois, je passe d'un texte à l'autre, mais je traduis toujours deux, trois poètes en même temps. Là, je suis en plein avec Gérard Le Guic, le poète français breton, que je trouve très, très beau. Et en même temps, avec Guy Goffet, que je trouve aussi, j'aime beaucoup. En général, j'aime la poésie lyrique. Les deux poètes, ce sont des poètes lyriques et très modernes. C'est ça. Je veux dire aussi, on retourne sur la question de fidélité, on est toujours dans l'infidélité. Et j'aime bien, et toujours dans la traduction, il y a un proverbe ancien dans la culture arabe classique. On dit que la langue, c'est le traducteur du cœur. Lisan urjuman al-qalb. Alors, parce que quand on fait un poème ou une traduction, on passe d'un monde non linguistique, le vécu, à mettre ça dans un langue, dans un monde linguistique. Alors c'est un passage, et dans le passage, il y a toujours, on perd quelque chose. Pour cette raison, tous les poètes, les écrivains, quelque part ou un moment de leur vie, il écrit une lettre ou un prose, il dit oui, je n'arrive pas à exprimer tout ce que... Parce que c'est ça, la traduction. Et on a besoin de plusieurs traducteurs. Par exemple, si on voit Dante ou Rainer Maria Rilke en français. Donc il y a 4, 5, 6 traducteurs parce qu'il y a une traduction, c'est une seule possibilité qui exclut beaucoup de possibilités. C'est toujours, il y a une, et toujours, toutes les traductions, c'est de la richesse. Mais moi, au fond de moi-même, j'aime pas les traductions très, très liées et collées au texte. J'aime bien qu'il y a quelque chose de la recréation du texte. Voilà.
Merci. La question est, est-ce que le lecteur dans la langue dans laquelle on va traduire peut savoir si c'était un texte qui était traduit d'une manière très précise, très fidèle, littéraire, ou pas ? C'est une question à laquelle, à mon avis, on ne peut pas répondre, mais qui m'a traversée quand je vous écoutais. Nina, vos projets ?
Alors, pour revenir à quelque chose dont on parlait tout à l'heure, c'est... Je pense que s'il y a une chose que j'ai appris d'avoir traduit des textes, des poèmes, c'est que c'est vraiment une activité où on puise dans le poème original, où on comprend beaucoup mieux le poème original. Et je travaille, j'ai traduit quelques textes expérimentaux, donc à contrainte, et d'essayer de comprendre la mécanique et qu'est-ce qui se passe avec cette mécanique. C'est complètement autre chose de lire ce poème que de traduire ce poème. Donc je vous conseille à tout le monde de traduire les poèmes pour mieux les comprendre, en fait, je pense. Pour les activités par la suite... Je pense avec Emma, on aimerait bien beaucoup sortir un deuxième tome de notre anthologie parce qu'on a dû choisir 18 poètes pour notre public britannique et il faudrait introduire encore de nouveaux poètes, surtout dans ce contexte de Brexit en Grande-Bretagne. Il y a un grand besoin.
Très bien, et je pense qu'il y en a plein ici à découvrir. Merci beaucoup, et puis avec mon souci pour la jeunesse, c'est pareil, je me dis traduire, ça serait amusant de faire traduire aux jeunes un poème dans leur langue. En fait, pas dans une langue étrangère, mais juste lire la poésie et la traduire à la leur. Bon, c'est tout, une idée. Marcos ?
Alors, je n'ai pas de projet très, très précis en ce moment. Je viens de publier les nouvelles en trois lignes de Félix Fénéon, qui n'est pas en fait de la poésie, mais c'est un genre de texte aussi avec contrainte. Et il y a beaucoup, il y a la contrainte des trois lignes, justement, et puis beaucoup de références à la culture des 5 et 10 premières années du XXe siècle en France. C'est un voyage ethnographique assez intéressant. Et c'est une idée de traduction qui était que j'ai commencé à entretenir il y a 2-3 ans. Donc je viens en France chaque 2-3 ans et je retourne chez moi toujours avec un projet de traduction. Donc c'est un peu ma façon de faire. Et maintenant, je fais quelques recherches sur les lecteurs de Francis Ponge, contemporains, français. Donc, je crois quelque chose dans cette mouvance donc m'intéresse maintenant. Donc, il y a des poètes comme Jean-Marie Glaise et même Philippe Beck, dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des poètes qui m'intéressent assez particulièrement. Philippe Beck, j'ai déjà traduit 2-3 textes. Mais j'ai rien de très concret en ce moment.
En même temps, ça semble déjà bien concret parce que le prochain voyage, le retour, c'est pour bientôt, non ? Donc, un nouveau projet qui va naître. Kim, français ou néerlandais le prochain ?
Français-néerlandais, donc vers le néerlandais. Je vais commencer à travailler bientôt sur un livre d'Anne Kawala qui s'appelle Au cœur de l'écrin. Qui part de l'écrin contenant le cœur d'Indre-Bretagne qui a été volé récemment au musée de Nantes, mais retrouvé, Dieu merci, pour s'interroger en fait sur la place de la femme dans l'histoire et dans l'historiographie. Et après ça, ce sera dans l'autre sens, puisque j'ai aussi une commande pour un recueil d'une poète flamande, Charlotte Vandenbroek, que je dois traduire en français pour un éditeur bruxellois, L'Arbre de Diane. Et après, ben, j'espère qu'avec les Pays-Bas comme pays invité au prochain marché, il y aura d'autres choses à faire. Mais bon, enfin, ça, pour l'instant, ça reste un petit peu dans le vague encore.
Ah, le scoop, en tout cas pour moi.
Non, j'ai pas de scoop pour l'instant, justement, mais j'aimerais bien.
Bon, j'ai bien écouté. Elisabeth ?
Oui, je vais essayer avec celui-là. Ben, il y a un projet, mais bon, assez lointain, mais d'une anthologie de la poésie française contemporaine. Donc, on a un éditeur, on peut le faire, mais bon, on est encore dans le stade de rassembler les auteurs, de rassembler des poèmes, de choisir, de lire. Donc, ça va encore prendre beaucoup de temps, mais ça sera une anthologie bilingue. Hein. Donc, on aime bien. D'accord. Et dès que je peux, en général, je fais des éditions bilingues. Donc, ça répond aussi un petit peu à votre question. Puisque le français, c'est quand même une langue que encore pas mal de gens comprennent, lisent un petit peu. Donc nous, dès qu'on peut, on fait des éditions bilingues. Et comme ça, bon, on peut toujours jeter un coup d'œil à droite ou à gauche. Et je crois que, pour revenir sur la fidélité, je crois que pour moi, le principe, c'est une traduction, un poème traduit doit être un poème, c'est-à-dire il doit fonctionner tout seul comme poème et sans référence à l'original. Oui. Donc j'adore les éditions bilingues, mais c'est pas inévitable, hein, c'est pas une condition sine qua non. Et donc la traduction d'un poème doit être un poème à lui tout seul. Hein.
Oui, et c'est Valérie Rousseau. Moi, je traduis pas beaucoup, mais j'ai traduit un tout petit peu, notamment ouais. Valérie. Et elle me disait, pour m'encourager dans la traduction, qu'un poème a un poids et que quand on le traduit dans l'autre langue, il faut essayer d'avoir à peu près le même poids, espérer que ça soit le même.
Et donc, j'ai fait aussi l'expérience que, par exemple, quand on a repris un poème ou quelques poèmes d'une anthologie pour en faire après un volume et de l'insérer, donc ces poèmes traduits il y a un certain temps dans un autre volume, ben on les a automatiquement retravaillés, retraduits, et il en est sorti pas forcément autre chose, mais quand même quelque chose de nouveau. On n'a pas repris la traduction telle quelle sans rien changer. Hein. Et il y a peut-être un auteur, un poète qu'on aimerait bien traduire et ou peut-être faire un volume à part, c'est Jean-Pierre Lemaire.
D'accord. Merci. En tout cas, on voit que la traduction, c'est quand même enrichissant pour le traducteur lui-même, pour le public qui va le lire, aussi pour l'auteur lui-même, parce que je pense qu'il y a une vraie... on n'a pas parlé des auteurs qui sont traduits, mais des fois, je discute avec eux après, et c'est une drôle de sensation de savoir que leur poème était traduit dans une langue qu'ils ne connaissent pas. Il y a une histoire de confiance incroyable dans ce passage-là. Et en tout cas, je pense qu'on a enrichi aussi nos auditeurs avec toute cette expérience. Il est peut-être le temps, l'occasion aussi. Voilà, il y a plein de personnes très passionnantes sur la scène. Vous avez éventuellement des questions à leur poser ou à un témoignage autour de vos traductions aussi.
Bonjour. Je voulais juste savoir, je m'adresse à vous tous qui faites de la traduction, comment pouvez-vous être sûr, ou du moins vous rapprocher de cette certitude, que l'expression de cette poésie-là par cet auteur-là, c'est véritablement ce qu'il a voulu exprimer, sachant effectivement qu'il y a déjà de lui-même à ce qu'il crache ça par écrit, il y a déjà cette petite infidélité ou cette petite distorsion qu'il va avoir, parce que écrire n'est pas forcément exactement ce qu'on ressent toujours. Est-ce que vous rentrez en contact avec les auteurs ?
Oui, bien sûr. Je crois qu'il n'y a jamais de sécurité à 100%.
Oui,
non,
forcément.
Bien sûr que non. J'ai quand même un sentiment de sécurité en quelque sorte, par exemple en traduisant Jacques Côté. On traduit à deux, donc ça ne veut pas dire qu'on va plus vite. Hein. Traduire à deux, ça veut dire que ça va beaucoup plus lentement, parce qu'on discute énormément de chaque mot, de chaque phrase, de chaque vers. Et on discute aussi de la traduction avec l'auteur.
Madame, j'admire vraiment votre certitude et votre...
Non, mais c'est pas une certitude. Si vous êtes tout le temps dans le doute, vous ne pouvez pas faire ça. Et pour prendre du plaisir, je crois qu'il vous faut aussi une certaine assurance. Et
oui.
L'assurance, elle est là aussi parce que dans ce cas très précis de Jacques Côté, par exemple, c'est un auteur qui a toute sa vie traduit énormément de l'allemand, qui maîtrise parfaitement l'allemand. Donc on peut aussi lui poser des questions très précises, par exemple sur un adjectif où on n'est pas sûr de la nuance qu'il a voulu donner à cet adjectif. C'est-à-dire, je peux lui donner 5 adjectifs en allemand et dire lequel se rapproche le plus de ce que vous avez voulu dire. Et donc, il me donne une réponse. C'est-à-dire, dès que je suis vraiment complètement dans le doute, j'ai cette bouée de sauvetage. Et de là, peut-être, cette assurance qui vous... Bon.
Oui.
Déstabilise un petit peu.
Ouais. Merci.
D'autres assurances... Bouée de sauvetage qu'on n'a pas toujours quand il s'agit d'un auteur mort. Il n'y a plus de dialogue possible.
J'ai une remarque en ce qui concerne cette idée. Ça ne suffit pas d'être avec le poète, avec Jacques Côté ou lui, qu'est-ce qu'il pense. Parce que là, je donne un exemple. Il y a les œuvres complètes de Giuseppe Ungaretti, le poète italien, prix Nobel, qui lui-même, je pense, c'était dans la collection, chez un éditeur français, édition de Minuit, j'ai oublié l'éditeur. Alors, il a établi une traduction française. Lui, il maîtrise la langue française. Giuseppe Ungaretti, il a vécu, il est né en Alexandrie, italien, prix Nobel. Oh. Alors, cette traduction avec un traducteur français. Mais Gallimard, quand ils ont publié les œuvres complètes, les 5 recueils de Giuseppe Ungaretti, ils ont fait une autre traduction. Ce n'est pas parce que le poète il a choisi bien son verbe dans la langue originale qu'il est un bon traducteur. C'est ça. Ça ne suffit pas d'être avec le poète. Et là, je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit Yanis Ritsos. Il a dit, dans ma langue, il y a toutes les langues. Et dans la traduction, il y a cette dimension création, parce que l'être humain aussi, il a le droit. Ce n'est pas question qu'il est fidèle ou infidèle. On emploie ces mots. Mais je veux dire que quand on est dans la création, on est dans un monde aussi irrationnel. Alors, il n'y a pas les... Quand on parle de technique de justesse, ce n'est pas la traduction, c'est la traduction scientifique ou les mathématiques. Alors, être avec le poète lui-même, ce n'est pas une référence, je veux dire. Voilà.
Je crois que Ungaretti lui-même, il a beaucoup travaillé avec ses traducteurs, notamment avec son traducteur français qui était Philippe Jacoté. Il l'a invité régulièrement à venir, le jeune Jacoté, à venir à Rome. Il lui a payé le voyage, le séjour à Rome pour pouvoir travailler avec lui. Donc Ungaretti était quelqu'un qui a travaillé énormément avec ses traducteurs.
Oui, et puis si je peux rajouter, c'est tout simplement une histoire de rencontre... de rencontres humaines. Et comme vous avez dit, l'auteur n'est pas toujours dans le même état, il va revenir sur le poème, il va le changer, et vice versa, le traducteur pareil, un jour ça va sonner comme il faut, et puis le lendemain on va revenir dessus, mais le lendemain on était joyeux, on était triste. C'est comme la vie un tout petit peu, je pense que c'est là où il y a l'assurance, parce qu'il y a la vie dans cette traduction. Je me semble, je ne sais pas si vous voulez rajouter autre chose par rapport à ça.
Juste un autre exemple, c'est Samuel Beckett, c'est un poète qui a écrit en anglais, en français, et qui a traduit ses propres textes. Et donc on voit des poèmes qui sont des poèmes traduits, disons, et qui sont absolument différents. Donc est-ce qu'on peut parler de... Jusqu'où on peut parler des intentions, de... Donc ce sont des projets différents d'un texte à l'autre. C'est un cas très intéressant d'auto-traduction, parce que justement, il laisse tomber cette exigence de la fidélité en original. C'est-à-dire qu'on peut, c'est aussi la, construire un autre texte sans pourtant être, disons, complètement éloigné. C'est-à-dire qu'on ne traduit pas dans le noir. Il y a toujours des critères, etc. Mais ça peut résulter, ça peut donner des choses très différentes.
Oui, et puis à la fin, le poème appartient, c'est un mot un peu grossier, mais au lecteur, finalement, c'est lui qui va s'y retrouver ou pas, il va passer à côté, il va trouver quelque chose qui lui fait du bien.
J'ai une petite...